dire que d'abord je suis pas très surpris pour ce qui se passe pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont le Comité International Olympique aujourd'hui est quelque chose comme la 10e multinationale du monde. On voit pas comment d'un seul coup Total pourrait se priver de tous ses bénéfices et le CIO non plus en supprimant les Jeux Olympiques. De nombreux travaux et puis de nombreux auteurs ont écrit sur la question de l'histoire du sport. Les gens veulent bien s'informer, ils constateront que le sport est fondamentalement une activité physique de droite, fondée sur une mystique de droite, avec l'élection d'un champion, enfin, etc., etc. Donc, il suffit de connaître un peu l'histoire du sport pour comprendre que les Jeux Olympiques ne s'arrêteront pas pour les droits de l'homme.
Cecilia Siganer Albéniz, je fais court sur les prénoms, a épousé ce week-end à New York le publicitaire Richard Attias. Tous ces mariages, que du bonheur. Et tous ces voyages, quelle chance. Et toutes ces fêtes, magnifiques. Et quelle classe, ce beau monde. Et moi, je vais attendre mon train, gelé sur le quai, en me disant que c'est le 25 mars. Et que peut-être j'aurai mon virement mensuel, que ça m'éviterait d'aller pleurer chez le banquier encore une fois pour cette fin de mois.
Ça par contre, c'est pas du bonheur.
Salut à tous. La première chanson de l'émission qui dit que les États-Unis ont volé 8 États au Mexique. Il me semble qu'avant les Garcia, Rodriguez, Zapatero et autres, et aussi Washington, Bush ou Presley, il y avait un peuple qui s'est fait ratatiner la tronche par ces deux nationalités, du nord au sud de ce nouveau monde, nouveau entre guillemets. C'est vrai qu'il faut vivre au présent, mais on peut s'inspirer du passé et savoir d'où l'on vient. Allez, ciao à tous.
Chers auditeurs, passé ce week-end Bagnaud-Pascal, j'aimerais vous parler d'une sorte de mouton noir de l'armée française. Un officier qui, depuis 56 jours, est en grève de la faim et dort dehors, sur un banc, face à l'Elysée. Ce capitaine cherche depuis des années à retrouver sa dignité. Ironie kafkaïenne, pour sortir de l'enterrement administratif, cet officier s'est improvisé champion du jeûne. Comme dans la nouvelle de Kafka, le champion du jeûne mourra de faim et dans l'anonymat. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, je le crains. Pour le dire tout net, toutes les portes auxquelles nous avons pu frapper sont restées closes. Le silence du ministère de la Grande Muette fut le plus pesant. L'anéantissement physique succédera donc à l'anéantissement administratif. C'est à ce moment-là que les médias prendront peut-être le relais. À quelques mètres du studio Gabriel, j'aimerais pouvoir dire mon capitaine vivement dimanche prochain. C'est un horizon temporel qui n'est plus le sien. Et je soupçonne que dans notre société, le coucher d'un chien people importe davantage que celui d'un citoyen. Si ces mots vous touchent, quelque peu, alors je vous invite à soutenir cet homme injustement bafoué. Rendez-vous au Square Pompidou, vous y trouverez un homme affaibli, mais déterminé à retrouver son honneur. Mathieu Pérez, attaché parlementaire de Jean Lassalle.
Bonjour les ANG de Villejuif et des alentours. C'est la casse du droit du travail, la mort programmée des conseils de prud'homme. Des contrats CDD vont pouvoir se prolonger jusqu'à 3 ans. Tout cela, Gérard Filoche, inspecteur du travail, l'expliquera mieux que moi. Ce soir, à 20h, à la salle du conseil municipal de la mairie de Villejuif, près de l'église, métro Paul-Vaillant-Couturier. Venons nombreux, rendez-vous 20h à côté de la mairie, ce soir. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Oui, bonjour les amis de la Basse, j'y suis. Bien, j'ai écouté avec ferveur votre émission d'hier et on peut dire qu'en fait, c'est vieux comme le monde, tout ça. Malheureusement, toutes les personnes émigrées qui viennent dans un pays plus riche se font exploiter, surtout au début. On pense aux Portugais, par exemple, quand ils sont arrivés en France, souvent, les Espagnols, les personnes venant d'Algérie, du Maroc et tout ça, étaient logés dans des bidonvilles, tout ça. Enfin, je me rappelle d'une dame portugaise qui me parlait de son mari quand il est arrivé en France. Ils étaient logés à 50 dans un grand bidonville avec une seule toilette pour tout le monde. Enfin bon, voilà, quoi, c'est... Je pense que quand on comprendra que peut-être qu'il faut que les gens s'organisent sur place aussi, peut-être se réapproprier les terres. On parle des Mexicains hier, qui sait, mais malheureusement, est-ce qu'on les aurait laissé faire? C'est ça le problème aussi. Rester sur place aussi et se réapproprier les terres pour cultiver eux-mêmes, enfin, s'organiser, quoi. Voilà, au lieu de toujours fuir, peut-être essayer de mener la lutte sur place aussi. Je crois que ça sera important, mais bon, peut-être qu'un jour les humains comprendront ça, qu'il faut lutter aussi sur place, quoi. La lutte aussi, c'est sur place. Voilà, eh ben, écoutez, c'est triste, quoi. C'est le capitalisme, toujours les profiteurs d'un côté et les exploités de l'autre. C'est vrai que... Voilà, écoutez, à bientôt, salut et bonne continuation.
Merci pour ces messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. On continue la balade donc, qu'on a entreprise hier le long de la frontière de Brownsville à Tijuana, 3200 kilomètres. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on ne trouve jamais le chiffre précis. Chacun son chiffre. C'est autour de 3200 kilomètres, cette frontière qui, en grande partie, il faut le dire, est marquée par le Rio Grande, alias Rio Bravo. Alors, oui, bien sûr, conseiller, aller conseiller aux Mexicains se réapproprier leurs terres. Et il y a fort à parier qu'ils y ont pensé. Mais ce serait de se les approprier tout simplement. Il y a là, comme partout en Amérique latine, vous le savez bien, des problèmes de propriété. Et il y a eu, on l'a évoqué hier, en 1994, l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui n'a pas du tout favorisé les paysans et les gens qui vivent dans les régions reculées du Mexique. Et qui ont fait quoi ? Eh bien, ils ont continué ce qui était déjà entrepris depuis longtemps, c'est-à-dire l'exode rural vers les grandes villes, vers Mexico, Cancun, etc., venant gonfler la population des bidonvilles déjà énormes dans ces régions du monde. Alors nous, Français, on a une image de l'immigration qui est effectivement celle de voilà tous ces... ceux qui sont devenus français aujourd'hui, mais qui étaient italiens, espagnols, belges, arméniens, polonais, etc. Et se sont peu à peu intégrés, ça n'a pas toujours été facile, ça a souvent été des galères, mais qui se sont peu à peu intégrés au pays, qui sont devenus français. Et puis, mais il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu la période 45-75 qui a favorisé cette intégration, qui est passée bien sûr par une exploitation, une surexploitation de gens qu'on allait chercher parfois dans leur pays par des recruteurs. Enfin, on connaît tous ces histoires-là. Aujourd'hui, c'est assez différent. Mais pour ce qui concerne le Mexique, c'est pas ça qui se passe. C'est que ça marche pas. C'est que ça ne marche pas, c'est-à-dire que l'intégration se fait très 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 difficilement. Il y a un refus apparent, c'est assez curieux comme phénomène, il y a un refus apparent des États-Unis, mais en fait ça favorise l'économie américaine. Les patrons des États-Unis sont tout à fait favorables à cette immigration, tout à fait favorable à cette immigration. Ça leur fournit une main-d'œuvre docile, peu coûteuse, qui fait baisser les prétentions des autres salariés, qui évidemment décourage toute revendication sociale. C'est donc très rentable pour eux. Et en même temps, il y a cette hypocrisie qui est de construire ce mur, puisque c'est pour voir ce mur né de l'imagination de l'entourage de George Bush que nous sommes là. Ce mur qui devrait en principe freiner, sinon annuler complètement cette immigration. Pour l'instant, ça ne freine rien du tout. C'est en cours de construction et il y a toujours environ 1 million de Mexicains qui chaque année sont arrêtés et renvoyés chez eux, c'est-à-dire à quelques mètres. Et pour un Mexicain arrêté, on considère qu'il y en a 3 qui réussissent à passer. C'est quand même quelque chose d'absurde, de complètement délirant. Et il y a comme ça, chaque année, 500 000 illégaux supplémentaires qui arrivent aux États-Unis, pas seulement originaires, d'ailleurs, il faut bien le dire, du Mexique, ni même d'Amérique latine. Et voilà, c'est ces chiffres auxquels les États-Unis, j'allais dire, doivent faire face. Mais encore une fois, c'est intéressant pour beaucoup de monde. Ce que visait, en tout cas, George Bush en décidant de la construction de ce mur, c'est tout un électorat assez nationaliste qui est contre, xénophobe, ça n'étonne personne, mais aussi tout un électorat qui craint d'être de se voir déposséder de ses emplois, c'est-à-dire les cols bleus, c'est-à-dire les vulnérables, c'est-à-dire les gens qui sont en bas de l'échelle du travail, qui, comme c'était le cas chez nous dans les années 30, disaient « ils viennent manger le pain des Français ». Eh bien, il y a des États-Unis qui sont favorables à ce mur parce qu'ils considèrent que les Latinos, les Chicanos, comme vous voulez, viennent manger le hamburger des Américains. Voilà un petit peu le paysage, voilà un peu les quelques problèmes rapidement évoqués. Aujourd'hui, on est à Brownsville, c'est-à-dire le point le plus à l'est et le plus au sud de cette frontière. C'est le point de départ, c'est l'embouchure de Rio Grande. Et symétriquement à la frontière, Brownsville est collé contre la frontière, c'est de l'autre côté, la ville mexicaine, c'est Matamoros. Et on va aller de Brownsville à Matamoros. C'est un tout petit voyage qui va nous prendre 7 heures tout entière avec des rencontres de femmes qui travaillent dans ce qu'on appelle les maquiladoras. C'est jusqu'à 16 heures sur France Inter. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, donc c'est Solange d'Aveyron. Ce matin, j'écoutais Monsieur Bertrand, reçu par Monsieur Demorand. Ce qui est incroyable, c'est que Monsieur Bertrand nous rappelle que les réformes se font avec les syndicats qui les signent. On avait la sensation qu'il dégageait en tous quant à ses responsabilités et qu'il les refilait aux centrales syndicales. Donc les centrales syndicales soutiennent la politique de réforme de Monsieur Bertrand. Merci et continuez comme ça, ça fait beaucoup de bien de vous entendre à 15h. Au revoir.
Bonjour à tous. Je voulais dire un grand merci à Daniel et à toute son équipe. Parce que grâce à eux, en 2007, j'ai fait une grande découverte. C'est celle de Noam Chomsky. Et grâce à lui, j'ai compris beaucoup de choses dans l'histoire mondiale contemporaine. Et c'est surtout grâce à ses livres que j'ai commencé à lire assez tôt. Donc voilà, maintenant la partie cachée de l'iceberg me paraît de plus en plus claire. Et vraiment, je me régale. Et aussi, je vous suggère tous, à tous vivement, de prendre quelques temps pour lire ces bouquins sans modération, à commencer par Le contrôle de nos vies, qui est un petit livre de 56 pages qui ne coûte que 6 euros, et puis surtout par continuer par Comprendre le pouvoir avec ses 3 tomes, et aussi La doctrine des bonnes intentions. Voilà, un vrai régal pour moi, un régal de clarté, de pédagogie, d'intelligence.
Yes, we have an invasion.
C'est une invasion qui est en cours.
In military terms, it is an invasion.
Là, on peut voir la frontière là, un peu plus loin là. Over there. Juste là-bas.
Cloc, cloc. C'est le tourniquet et qui tourne pas dans l'autre sens, hein.
Comment c'est le mur ici que tu viens de
tomber? Comme à Moscou maintenant ici, comme ils avaient là le mur,
sí.
Là. Comment
ça, le mur de Berlin.
Voilà, le mur de Merlin.
Sí, también. O sea que estamos igual.
Ici, on est pareil que là-bas maintenant.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec Antoine Chao. Et qui vanque-t-il? En route pour Tijuana.
Flight number 2, arriving from...
By the river, Rio Bravo, I walk all alone, and I wonder as I wander by the river. While the river Rio Bravo flows along,
Alors donc, dans notre dos, ah oui, comment on dit, les dos mouillés,
les wetbacks.
Wetbacks. Ouais, c'est quand même une vieille histoire, hein. La traversée du Rio Grande par les Mexicains, c'est quand même une très vieille histoire. Sauf que là, ça a pris des proportions tragiques, monstrueuses. Mais il y a quand même ce truc un peu, je pense, un peu honteuse pour les Américains. Assez humiliante pour les Américains. C'est qu'ils s'enferment. Quand tu construis un mur comme ça, c'est que t'as peur, quoi. C'est que tu te protèges. C'est que t'es un sédentaire, t'es un vieux, quoi. Ça y est, t'es cuit, quoi. C'est un peu l'impression qu'on a, quand même, hein. On ferme les volets, on s'enferme, on a peur, on a peur de tout, quoi. La guerre à la terreur, c'est, voilà, on s'enferme à clé chez soi. Je crois que ça leur plaît pas, quoi.
N'empêche,
c'est rigolo. On va voir si ça plaît à Hillary, parce que nous, on a rencard avec Hillary Clinton, maintenant.
Ah oui. Ah oui. Ah, le monsieur avec ses cannes à pêche, là.
Ah, le pêcheur, tu vois. Il remonte avec ses cannes à pêche.
Hi.
How you doing?
All right, and you?
This is the end of the line, huh?
Yeah, c'est ça, c'est le bout de la rue. C'est le bout de la route.
That's why I came here.
Oh, yeah? C'est pour ça qu'il est venu, là. Where are you coming from?
I work all over South Texas, and I've never been here. And I try to make a point to go someplace interesting everywhere I go.
Voilà, il travaille dans le sud du Texas, il n'était jamais venu ici. Il faut quand même aller voir quelque chose d'intéressant partout où on va.
Mais c'est où le Mexique? Où est le Mexique?
That way.
Par là, là.
Ah. It's a long way?
Not that far. If the map is correct.
Si ma carte est correcte.
There's where we are.
Voilà où on est.
Uh-huh.
Right there. And so there's the Rio Grande.
Ah, et voilà l'embouchure.
Just right over there. Parlez-vous français?
Oui.
Oui. Un peu.
Un peu, bravo.
But this is beautiful. I've never been here. And
c'est magnifique, je t'ai jamais
c'est
venu là.
C'est splendide.
Yes, you can smell the fish.
Yeah, on peut sentir le poisson.
Ouais. Okay.
OK. Adios. Oh,
adios.
No, au revoir.
Au revoir.
Adios. Bye-bye.
Bye.
Mexique, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Pauvre Mexique, vous connaissez la phrase célèbre attribuée à Porfirio Diaz, qui fut le président du Mexique à la fin du 19e siècle. Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Et il faisait évidemment allusion à une période très difficile dans les relations entre le Mexique et les États-Unis, ce 19e siècle au cours duquel le Mexique perdit la moitié de son territoire. Et oui, en moins de 25 ans, le Mexique a perdu le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, l'Utah, le Nevada, la Californie, le Colorado, le Wyoming. C'est toute une partie de ce pays qui a été qui est passé sous le contrôle et dans l'escarcelle nord-américaine. Alors évidemment, cette guerre, ces conflits se prolongent d'une certaine façon aujourd'hui à travers cette tension et cette sacrée frontière et ce sacré mur. Hier, on entendait un corrido traduit par Antoine Chao des Tigres du Nord, des Tigres du Norte, qui disait « Nous n'avons pas traversé la frontière, c'est la frontière qui nous a traversé. » On dit « Ah bon, mais c'est une belle formule, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. C'est pas nous qui traversons la frontière aujourd'hui, c'est la frontière qui nous a traversé au 19e siècle, lorsque nous avons été dépossédés d'une partie de nos terres. C'est-à-dire que les Mexicains, dans leur imaginaire, se vivent un petit peu de l'autre côté de cette frontière aussi. Et il y a une inquiétude chez les États-Unis, effectivement, quant à la légitimité, leur légitimité sur ces terres. Inquiétude sur leur légitimité déjà ancienne. Cet auditeur a eu le réflexe de rappeler que ce n'était pas une terre sans peuple, si c'était pour des peuples sans terre, c'était pas une terre sans peuple, celle-là non plus, puisque effectivement, il y avait des peuples autochtones qu'on appelle les Indiens et qu'on voyait dans ces films de notre enfance qu'on a évoqué au début de cette émission. Et d'ailleurs, dans le bureau de celle qu'on va retrouver aujourd'hui, il y a un poster au mur qui représente les ceux qui défendent le sol aujourd'hui. Il y a les Minutemen, on verra ceux qui sont les gardes frontières, mais des milices privées qui s'organisent contre les Mexicains, contre les sans-papiers qui passent, contre les migrants. Et c'est un poster représente les Indiens avec qui auraient pu très bien être ces Minutemen, mais contre qui à ce moment-là? Et bien contre ces migrants. C'est des mémoires de migration qui se succèdent et qui s'illustrent parfaitement par la formule « le dernier rentré ferme la porte ». Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est là devant un phénomène planétaire qui s'aggrave, car aujourd'hui, c'est le dogme de l'inégalité qui prévaut dans la politique mondiale, qui a été imposé par les politiques néolibérales, par le FMI, par la Banque mondiale au cours de ces 20-30 dernières années, et dont nous voyons les effets. C'est vrai que la migration est un phénomène humain ancien, bien évidemment, mais qui là prend une proportion, une dimension nouvelle, avec des conséquences violentes qu'on voit déjà, qu'on va mesurer, mais dont on ne voit pas pour l'instant, dont on ne connaît pas la limite. On est ensemble jusqu'à 16h, en route pour Tijuana.
La base est ici.
Para obligarte a ti y a mí, vigilan todo lo que hacemos, pues creen que somos su botín. Dijo el vaquero, ¿quién soy yo para disentir? Pues cuando un loco activa el switch, nuclear será ya todo aquí. El manicomio está en las manos de los locos. El manicomio está en las manos de los locos.
Los marginados en este tiempo, en este siglo, los marginados de nuestras comunidades vendrían siendo los migrantes.
Donc les gens qui sont marginalisés ici dans cette communauté, dans ce quartier, c'est en général des migrants.
Que muchas veces se convierten en los esclavos modernos de la sociedad.
Qui sont en général contraints à devenir les esclaves de cette société moderne.
C'est ça, parce que là, il faut expliquer que là, on est dans ce quartier. Brownsville, c'est une ville pauvre, mais là, on est dans un quartier, on est dans la banlieue, disons, de Brownsville, qui a l'air déjà d'une banlieue. Et là, c'est la plupart des gens qui habitent ici sont des sans-papiers, et ça arrange beaucoup les industries du coin, qu'on appelle les maquiladoras, qui exploitent ces sans-papiers.
Claro, entonces para nosotros en nuestra iglesia tenemos muchas reservas en la cuestión de las maquilas.
Donc nous ici dans notre paroisse, on est très sceptique sur la question de l'installation ici des usines de montage des maquiladoras.
Mucha gente dice, "Ah, qué bueno, llegaron maquilas, va a haber trabajos, etcétera."
Pero donc il y a des gens qui disent, "Ah, super, ça y est, les usines s'installent ici, va y avoir du travail pour tout le monde."
Pero la realidad es que las maquilas llegaron y la gente sigue pobre.
Mais la réalité c'est que les usines de montage las maquilas sont arrivées mais les gens sont toujours aussi pauvres.
Y la gente no tiene seguro porque las maquilas no proveen seguro.
Et les gens n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas de couverture maladie parce que ces usines de montage las maquilas ne donnent aucune couverture sociale.
Si alguien que trabaja en una maquila se enferma, lo corren.
Si un ouvrier d'une de ces usines de montage tombe malade, il est viré.
Porque ya no sirve para trabajar.
Ce qui ne sert plus à rien, il ne sert plus à travailler.
Elisabeth, il faut bien faire comprendre, quand on parle de maquiladoras, c'est-à-dire de ces usines tournevis où on exploite les gens, est-ce qu'elles sont du côté mexicain de la frontière ou du côté états-unien de la frontière?
Bueno, hay aquí en la frontera, entre Brownsville, Texas y Matamoros, México, hay maquilas en los dos lados.
Alors ici à la frontière où on est donc entre Brownsville et Matamoros, de l'autre côté, les usines sont de part et d'autre de la frontière.
Obviamente la mayoría de las maquilas va al lado mexicano.
Mais bien entendu, la plupart des usines sont du côté mexicain.
Porque aquí tienen que pagar por lo menos lo mínimo que son 5.50.
Parce qu'ici ils sont obligés de payer le minimum syndical, c'est 5.50 dollars de l'heure.
Entonces, ¿por qué pagar 5.50 la hora si puedo ir a México y pagar 25 centavos?
Alors pourquoi payer ici 5.50 de l'heure alors que de l'autre côté au Mexique c'est 25 centimes de l'heure?
25 cents de l'heure, un quart de dollar. Ah, entre Brownsville et Matamoros, c'est quelle distance?
Menos de 10 minutos en carro.
C'est 10 minutes en voiture, c'est de l'autre côté de la rivière.
Tal vez como al lugar donde vamos será como 8 millas, 10 millas.
Donc c'est à 8 ou 10 miles d'ici.
Solamente separa el Río Bravo.
Brownsville et Matamoros sont collés, c'est juste, ils sont séparés juste par le Río Bravo.
Bon, on va y aller. On va y aller. Et bien voilà, on y va avec Elisabeth Garcia qui anime l'ONG Proyecto Digna, et on va passer de l'autre côté, on va passer au Mexique à Matamoros, la ville qui est de l'autre côté. Alors on va voir là le fameux contraste entre les deux côtés, et on va rencontrer des ouvrières des maquiladoras. Il faut savoir qu'il y a des millions, il y a 1 200 000, on ne sait pas exactement, parce qu'il y a pas mal de ces usines qui travaillent, qui font du travail au noir, donc c'est difficile de savoir combien sont-ils à travailler dans ces usines. Alors, sont-ils, c'est plutôt sont-elles. La plupart du temps, ce sont des femmes qui travaillent dans ces maquiladoras. Ça a été commencé à s'implanter dans les années 60, à la moitié des années 60, mais ça a connu un développement, ces usines tournevis, dans les après, alors après la fameuse ALENA, l'application de l'ALENA au milieu des années 90. J'ai des conditions, on va le voir, tout à fait... qui sont en contradiction totale avec les droits minimums, les droits du travail minimum à travers le monde, mais menacés en permanence par la concurrence asiatique. C'est-à-dire qu'on dit toujours, si vous n'acceptez pas des bas salaires, si vous n'acceptez pas ces conditions de travail, eh ben on va aller ailleurs, on va partir. C'est les charmes du libre-échange, tout simplement, qui se déroulent sous nos yeux.
Está el río.
Voilà, on passe la rivière.
Vamos cruzando el río. Bienvenidos a México.
Là, on croise la rivière, donc bienvenue au Mexique.
Entonces, vamos a ver qué encontramos por ahí.
tout à l'heure. On va voir qui on rencontre par là.
Cuando cruzas en el lado mexicano, hay una estación. Si traes suerte y te toca luz verde, te vas.
Donc là, dans ce sens-là, il n'y a pas de contrôle de douane. Il y a juste une petite casemate là, au bout du pont, côté mexicain, et c'est la loterie. Donc si la lumière est verte, tu passes. Et si la lumière est rouge, eh ben, tu dois et montrer si tes es, papiers.
Si es roja, te paras.
Et si c'est rouge, tu dois t'arrêter.
Bueno, vamos a ver.
Alors, on va voir si on a de la chance ou pas.
Yo pregunto por qué un americano viniendo de Estados Unidos puede entrar a México sin papeles.
Non, moi je demande pourquoi un états-unien qui vit au Mexique peut rentrer sans papiers.
Y cuando nosotros mexicanos vamos a Estados Unidos necesitamos papeles para cruzar.
Alors que nous, quand on, en tant que mexicain, quand on va aux États-Unis, on a besoin de papiers pour traverser.
¿Cuál es la diferencia?
Alors c'est quoi la différence?
La economía.
L'économie?
No sé.
Je sais pas. Je sais pas très bien. Donc là, ça y est, on est au poste de douane mexicain. ¿Cuánto es?
Déjame. 2.25.
Dos. Toma, toma. ¿Qué? Si me da un recibo.
Me da un recibito, por favor. Gracias.
Igualmente.
Gracias.
Alors le décor change complètement, et la musique avec. il y a une résistance musicale étonnante selon les endroits de la frontière. Hein, il y a toute cette musique des corridos qui va nous accompagner tout le temps, parce que vous allez découvrir des corridos, c'est tout à fait étonnant. C'est une musique, c'est un peu toujours la même, mais les paroles sont particulièrement passionnantes. Antoine va nous traduire ça au fur et à mesure, parce que ce sont autant de chroniques de la vie quotidienne, des faits et gestes des uns et des autres. Et c'est une sorte de persistance de l'art des troubadours aujourd'hui dans ce Mexique et contre cette frontière. Donc évidemment, là, on voit une certaine résistance identitaire des Mexicains vis-à-vis des Yankees qui sont de l'autre côté. Et puis par ailleurs, par d'autres moments, on verra des influences, on verra une sorte de culture hybride qui s'est constituée à cheval sur cette frontière, où on parle un mélange parfois d'anglais et d'espagnol, le Spanglish. Alors voilà, c'est toute cette lutte et cette guerre qui continue, qui parfois, par d'autres moyens, c'est la guerre économique qui continue, avec parfois des mariages, des métissages et des refus entre ces deux univers. Mais c'est avant tout, bien évidemment, une lutte sociale entre plutôt les riches au nord et plutôt les pauvres au sud. Il faut faire très attention aux chiffres qu'on vous donne sur l'économie mexicaine. Parce qu'on vous dit, il y a une augmentation de la croissance ou du produit intérieur brut, etc. Mais ces chiffres sont des chiffres moyens. Et il faut être très très prudent. Et il faut se rappeler de la fable qui dit, voyons quel est le niveau de vie de ces gens dans ce pub. Hein, on entre dans un pub et il y a des gars qui sont en train de boire, des gens qui sont en train de boire des bières. On dit, ben voilà, quel est le niveau de vie de ces gens. Alors on fait une moyenne, mais tout d'un coup, il y a Bill Gates qui entre dans le bar. Alors quelle va être la moyenne des consommateurs du bar? Quelle va être la moyenne de leur niveau de vie? Voilà, c'est un peu ça qui se passe au Mexique. C'est-à-dire que on peut voir une augmentation moyenne des revenus ou de la croissance, mais encore une fois, c'est moyen. Et là, on est en dessous, largement en dessous de la moyenne. Il faut rappeler simplement deux chiffres pour ce qui concerne le Mexique. Autour de 50% des Mexicains vivent en dessous du seuil de pauvreté, et on estime le chômage à 50%, ce qui évidemment donne cette population de travailleurs, et on va le voir, de travailleuses parfaitement dociles, résignées quoique.
La base est ici. On vient d'arriver.
On
est passé de l'autre côté, là. On est passé vraiment de l'autre côté. Là, on est vraiment chez les pauvres, chez les très, très pauvres qui ont l'air d'en baver. Hein. C'est costaud. On se disait que Brownsville, côté États-Unis...
C'était pas grandiose, déjà.
C'était pas grandiose, mais là, c'est vraiment la misère. Cela dit, il faut pas non plus trop dramatiser et voir une... Il y a une gaieté aussi dans tout ça. C'est la vie quand même, c'est la vie d'un peuple quand même qui vit, qui se débrouille, qui lutte, qui se marre aussi, qui a sa culture. On va voir qu'il y a ses chansons, qu'il y a sa musique. Et ses bagnoles, il y a une Buick, j'aimerais bien l'avoir celle-là. Hein. Ah, c'est là qu'on va alors.
Bueno,
hola.
Rafa.
Buenas.
Rafaela.
Rafaela. Daniel.
Antonio.
Antonio. Antonio.
¿Cómo están? Bien.
Muy bien.
Rafaela, c'est ça votre nom?
Rafaela. Aquí estamos en Matamoros, Tamaulipas.
Ici, on est à Matamoros, dans l'état de Tamaulipas.
On est juste à la frontière.
En la frontera, exactamente.
Oui, tout à fait, on est à la frontière ici.
On est frappé, nous, on vient de Brownsville, de l'autre côté de la frontière, du côté États-Unis. Et ce qui frappe tout de suite ici, c'est quand même une certaine pauvreté.
Sí, pues es la, estamos en, estar en una frontera que aparentemente... Dicen que somos ricos, pero realmente son pura gente migrada de otros estados del sur de México.
Oui, ici on a une frontière qui est supposément riche, mais on voit bien qu'ici il y a que des migrants qui viennent de plein de régions et qui sont pauvres.
Ellos vienen acá buscando un salario más alto, porque en los lugares donde ellos viven, como en Veracruz, en San Luis Potosí, los salarios son mucho más bajos que aquí.
Donc eux, ils viennent ici pour pouvoir avoir un meilleur salaire, quoi, parce que les revenus sont très bas d'où ils viennent, à Veracruz ou à San Luis de Potosí.
Ce sont des paysans, des gens d'origine paysanne.
Son gente del campo.
Oui, c'est des gens de la campagne, oui.
Aquí la gente vive de trabajo en las maquiladoras, son panaderos, son albañiles, carpinteros.
Donc ici, les gens, ils travaillent dans les usines de montage, dans las maquiladoras, ou alors ils sont boulangers, ou alors ils vendent des fruits, ou ils sont maçons, ils peuvent être maçons aussi.
Todos los oficios pequeños.
Ils font tous les petits boulots, oui.
Mm-hmm. Alors voilà, on est dans le, devant la maison de Rafaela, qui nous reçoit sur le seuil de sa maison, Oui, qui se construit peu à peu. On voit qu'on a, on arrive à acheter un parpaing de temps en temps. Il y a des fers à béton qui sortent un petit peu et qui sont un petit peu rouillés. Voilà, enfin, c'est pauvre. C'est pauvre. Mais pourquoi on est là? Pourquoi Elisabeth Garcia nous en est là? C'est que Rafaela est une résistante. Enfin, vous allez voir dans quelle mesure on peut résister, on peut essayer de s'organiser, faire valoir quelques droits face à ces très puissantes, toutes puissantes maquiladoras. Alors, il y a une voisine qui justement passe à ce moment-là et qui nous dit dans quelles conditions elle travaille. Martha.
Ella trabaja en maquiladoras y la quieren entrevistar antes de que se vaya.
Donc là, il y a une femme qui travaille justement dans une usine de montage, si vous voulez lui parler avant qu'elle parte.
Il y a Martha.
Voilà Martha, la voisine qui passe dans la rue, et Martha, elle s'apprête à aller travailler à sa maquiladora. Martha, qu'est-ce que c'est votre travail?
Laboramos piezas para las lavadoras.
Donc on fabrique des pièces pour les machines à laver.
Para Whirlpool.
Pour Whirlpool.
Whirlpool. Ah d'accord. C'est une grande usine?
Sí.
Oui, c'est grand, oui.
Como unos 2000.
On est 2000 à peu près.
Todos los tres tours.
Les trois tours, quoi, hein, les 3-8.
Ouais,
hein.
Ouais. Mais combien vous êtes payé?
600 pesos a la semana.
Nous, on est payé 600 pesos par semaine.
60 dollars.
Ça fait 60 dollars.
60 dollars par semaine. Et combien de jours?
6 jours par semaine. 6 jours.
6.
Et vous avez des congés payés, des vacances?
Pues depende de los años que tenga, porque en el primer año te dan 4 días.
Donc ça dépend de l'ancienneté. La première année, tu as 4 jours de congés payés.
Par an, pour l'année?
Sí, cuando cumples un año en la fábrica, te dan 4 días.
Oui, c'est ça. Au bout d'un an, tu as le droit à 4 jours de congés.
Ya el segundo año te doblan los días, son 8 días.
Donc la deuxième année, il double. Donc tu as le droit à 8 jours de congé.
Et vous, par rapport aux gens du quartier ici, est-ce que votre vie est mieux, moins bien ou c'est la moyenne?
Pues más o menos, yo creo. Porque hay otras partes más peor.
Moi, je pense que bon, on est à peu près comme tout le monde, mais il y a des endroits où c'est pire, quoi. Il y a des gens qui ont plus de mal que nous encore.
Martha, justement, si vous êtes blessé, par exemple, au travail, est-ce que l'entreprise va vous prendre en charge?
Non, pues, más que nada, te corren, lo indemnizan y se va, porque como ocasiona problemas...
Non, pas vraiment, parce que si t'as un problème, si t'es malade, ce que fait l'entreprise, c'est qu'elle te vire, quoi. Elle te fout dehors, surtout.
Rafaela?
Yo trabajé 7 años y medio en Condura. donde ella está trabajando ahora.
Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans à Condura, qui est la
conozco entreprise. Todo el proceso del trabajo que ella está haciendo.
La même entreprise que Marta, je connais tout ce qu'elle vous raconte.
Yo trabajé en la misma línea que ella está trabajando ahora.
J'ai travaillé dans la même ligne de montage que Marta.
Si tu travailles à la chaîne, il faut produire.
Tiene que estar. Bueno, nosotros en esos años, cuando yo estuve trabajando en esa fábrica, a mí me pedían 4.000 piezas por turno.
Moi, quand j'y travaillais, on me demandait à produire 4.000 pièces sur mes 8 heures.
¿A ustedes cuánto les piden?
Ahí me están doblados.
A moi, on me demande 9.000 maintenant.
9.000 pièces en 8 heures.
A ellas les han doblado. A mí eran 4.000 piezas, a ellas son 9.
Moi, on me demandait 4.000 et à elles, on leur demande 9.000. Ils ont plus que doublé la production.
Et qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à faire les pièces? Si t'es malade, si t'es pas en forme, si t'es...
Siempre le están exigiendo, siempre están detrás de nosotros, exigiendo la producción, siempre.
Mais dans ces cas-là, ils sont derrière nous, ils sont toujours derrière nous, de toute manière, pour nous demander de maintenir la cadence.
Mm-hmm. Tu harcèles, vous êtes harcelé.
Es un hostigamiento, oui, un hostigamiento constante que tiene uno ahí,
c'est con ça, el supervisor atrás. C'est du harcèlement avec le contremaître derrière nous.
Et combien il gagne le contremaître?
Sí. 3.000 pesos por semana.
Eux, ils gagnent à peu près, les superviseurs, les contremaîtres, 3.000 pesos par semaine. Donc, elles gagnent 600.
Ah, vous les aimez pas, les superviseurs, hein?
Non.
Ils sont mexicanos.
Son mexicanos. Todos.
C'est des mexicains, c'est tous des mexicains, mais...
Sí, los más exigentes con nosotros mismos.
C'est les plus exigeants avec nous.
Dicen que no hay peor mexicano ni peor enemigo, sino uno de los mismos de nosotros.
Et on n'a pas pire ennemi qu'un des nôtres quand il se met de l'autre côté du manche.
On n'est jamais aussi bien exploité que par son propre frère.
Mm. Toujours.
Así es.
Oui, c'est comme ça. Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des syndicats dans l'usine?
Sí, sí, hay un sindicato ahí.
Oui, oui, il y a un syndicat là-bas, oui.
Un syndicat qui vous protège, qui vous aide.
Bon, entre guillemets.
Oui, entre guillemets, ils font ça.
C'est-à-dire, c'est un vrai syndicat qui vous protège ou un vrai syndicat qui vous trompe?
Oui, on
s'exploite. Oui, c'est un syndicat qui nous exploite, tout à fait.
Donc, c'est pas un syndicat?
Bueno, non.
Non, ben non.
Ellos se van al lado de la empresa.
Eux, ils sont du côté du patron.
Solamente lo hacen quedar en la maquiladora, pero ya no se ocupan de los trabajadores.
Les syndicats qui existent aujourd'hui, ils ne servent qu'à te faire, ils t'aident à rentrer dans l'usine, mais après, ils ne s'occupent pas de tes droits dans l'usine.
Uh-huh. Y aparte, les cobran un 4% por semana sobre el salario que ganan.
Et en plus, après, ils te prennent 4% de ton salaire.
Y cuando los desocupan, que la empresa los liquida, les dan una indemnización a los trabajadores y todavía les vuelven a cobrar otro 4% por esa indemnización.
Et en plus, quand tu te fais virer, les syndicats, ils prennent 4% de ton indemnité de licenciement.
Y no los defienden, no los defienden de los empresarios a volverlos a dejar que se queden en el trabajo, sino que ellos están de acuerdo con los empresarios para que
les ocupen. Y ils défendent pas les ouvriers quand ils sont virés, ils sont d'accord avec les patrons.
Alors, Rafaela, est-ce qu'il y a eu des tentatives de monter des syndicats, des vrais syndicats?
Nunca he tratado, pero yo creo que si lo intentáramos con todas las mujeres que vemos en Matamoros, que hemos trabajado en Maquila, lo lograríamos y sería un sindicato bueno porque no haríamos injusticias con los trabajadores.
No, moi je n'ai pas monté de syndicat, mais je pense que si on décidait d'en monter un avec toutes les femmes qui travaillent dans les usines de montage, eh bien on y arriverait parce qu'on a vraiment besoin de que les droits des ouvriers, des ouvrières soient défendus.
Es que yo también trabajo con los, o sea, desde entonces yo aprendí de la Ley Federal de Trabajo. Iba a cursos, a talleres de la ley.
Ce qui s'est passé, c'est que quand je travaillais à l'entreprise, à l'usine, je suivais en même temps des cours sur le droit du travail.
Yo ponía, lo escribía en papelitos, y como la banda, en una banda va dando vuelta y van poniendo todas las válvulas y van dando vuelta, y cada quien va agarrando su pieza para ensamblar. Entonces yo metía el papelito doblado debajo de una válvula. Cuando la persona que ella levantaba su válvula, agarraba el papelito y lo leía y lo volvía a doblar y lo ponía en la otra y así.
Donc moi ce que je faisais en fait c'est quand je travaillais à la chaîne et que je voulais passer un message aux autres ouvrières, je faisais le petit message sur un papier que je posais sous une pièce. Donc là c'était des válvulas, c'était des pompes. Donc je mettais un petit message sous chaque pièce et quand l'ouvrière d'après sur la chaîne prenait la pièce, elle pouvait lire le petit message et le remettre, donc pour défendre les droits. Donc j'expliquais ce que j'avais appris dans mes cours du soir.
C'est des techniques de prisonniers, c'est des techniques de détenus.
Era para que supieran que yo no iba a venir a cambiarme de turno.
Donc c'est comme ça, moi que je mobilisais les gens. Par exemple, s'ils voulaient nous changer notre tour sur les 3-8, et ben moi je refusais, donc j'appelais aussi les autres ouvrières à refuser.
Et vous étiez seule ou il y avait d'autres filles comme ça qui se battaient?
Habíamos como unas 15.
On était 15 comme ça à se mobiliser, à militer.
15 fortes têtes.
Todas hacíamos nuestra parte.
Oui, toutes, on faisait une partie du boulot, quoi.
Et jusqu'où vous êtes allé comme ça?
Nos juntamos para poner los extractores primero.
Donc on a obtenu les extracteurs de fumée
que no teníamos.
Que on n'avait pas jusque-là.
Luego enseguida los aires acondicionados para toda la planta.
Donc après on a obtenu l'air conditionné sur toute l'usine.
Quelle température ici il fait l'été?
Aquí como 40 grados.
Il fait 40 degrés ici.
Donc ça veut dire qu'avant que vous obteniez l'air conditionné dans ces usines en tôle et tout, vous bossiez là-dedans avec 40 degrés à l'extérieur.
¿Cuánto hacía dentro?
No, olvídese si nos mojábamos toda la ropa.
Mais dedans, sudando. Il faisait encore plus chaud dedans, mais on transpirait, oui.
Las mujeres se peleaban por los abanicos, se agarraban a trancazos.
Même des fois les femmes se battaient pour utiliser des éventails.
Un día que nos juntamos todas y que no trabajamos hasta que nos pusieran el aire.
Alors un jour, on a décidé de tous se réunir et de se mettre en grève tout ensemble jusqu'à ce qu'ils nous mettent la ventilation.
Ah, quand même.
2 heures estuvimos sin trabajar.
On est resté 2 heures sans travailler. Une grève de 2 heures.
Pero otro día, cuando llegamos a trabajar, ya había aire en la empresa.
Et en une nuit, après, ils ont installé l'air conditionné dans l'usine.
En la oscuridad, una sombra fugaz. Veloz cabalga el zorro, valiente y cortés, una zeta es su ley, es la marca del zorro. Zorro, galopa libre hasta el fin. Zorro, intrépido espadachín.
Rafaela, vous aussi, vous étiez d'une famille de paysans?
Yo soy nacida en un rancho, en un ejido.
Bien sûr, moi je suis née dans une ferme.
Sí, yo nací en el suelo.
Moi je suis née par terre.
Así es. Mi papá llegó de avecinado, o sea, no tenía nada.
Mon père, il avait rien.
Nada.
Rien du tout.
Trabajaba al jornal con mis abuelos.
Il était journalier avec ses parents, avec mes grands-parents.
Y ahí crecimos, ahí nacimos y ahí crecimos.
Et c'est là qu'on est né et qu'on a grandi.
Muy humildes.
On était très pauvres.
Muy pobres, pero muy contentos.
On était très pauvres, mais en même temps très heureux, très contents.
Et la vie est mieux maintenant ou moins bien qu'à l'époque?
C'est pire.
C'est pire. Attends, Rafaela, j'ai jamais entendu l'expression « je suis né par terre », c'est ça?
Sí, yo nací en el suelo, o sea, no había camas.
Eh oui, moi je suis né par terre, il n'y avait pas de lit chez moi.
No teníamos esto, no teníamos nada.
Il n'y avait pas de mur en dur, il n'y en avait rien.
Bon, et vous dites que maintenant c'est pire. J'arrive pas à comprendre, vous êtes juste à côté de la frontière, pourquoi est-ce que vous n'avez pas traversé la frontière? Là-bas on vit mieux.
J'ai crucé.
Et moi j'ai traversé déjà.
Yo viví en California 4 años y medio.
J'ai habité 4 ans et demi en Californie.
Ah.
Fui illégal.
Oui, moi j'étais sans papier là-bas.
Me crucé.
J'ai croisé.
En las cajuelas de los carros como cualquier otro.
Oui, moi j'ai traversé comme les autres, dans le coffre arrière d'une voiture. Sans papier.
Mm-hmm. Fue en el 80.
C'était en 80.
Alors comment on vous appelle des poulets?
Los polleros son los que llevan a nosotros.
Mm-hmm. Nous on nous appelle les poulets, oui, parce que les passeurs, on les appelle les passeurs de poulets.
Los polleros.
En esos años, cuando en el 80, nosotros nos cobraron $600 por cada uno.
Donc nous, à cette époque-là, dans les années 80, on a payé $600 par personne.
Aujourd'hui, c'est combien?
Ils cobran casi 2900.
Aujourd'hui, ils demandent $2900 à peu près par tête.
Por persona.
D'accord. Et ça passe par ici? Et ça continue? Il y a beaucoup de passages actuellement ici?
À mourir.
Il y en a plein.
Pueden poner 20 barres empalmadas, la gente como quiera se va a cruzar. El muro de la vergüenza que decimos.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur mur de la honte, ils peuvent le monter autant qu'ils veulent. Il y aura toujours des gens et plein de gens qui passeront.
Oui. Pues todos los días pasan miles de personas.
Mais tous les jours, il y en a des milliers qui passent.
Des milliers?
Mm-hmm. Como quiera cruzan y cruzan.
Oui, oui, qui veut traverser, traverse.
Pues es el sueño americano, es el sueño de todo mexicano que quiere estar allá.
C'est le rêve de tous les Mexicains qui veulent aller là-bas.
Et alors pourquoi vous êtes pas resté? C'était mieux la vie en Californie ou pas?
Non, se vive muy a prisa.
Non, 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 on est toujours pressé là-bas.
Pues se puede vivir porque se puede comer bien, pero te tiene que trabajar y se levanta uno más temprano que aquí porque allá a las 4 de la mañana ya tiene que estar trabajando.
Alors effectivement, tu peux peut-être mieux manger là-bas, mais tu bosses comme un dingue, quoi. Tu bosses comme un dingue, t'es obligé de partir à 4h30 le matin.
Y hasta las 3 de la tarde que llega uno a su casa.
Et jusqu'à 3h l'après-midi quand tu rentres chez toi.
Y es igual la misma explotación porque yo siempre trabajé en el campo.
L'exploitation est la même.
En la cereza, en el tomate.
Moi, j'ai travaillé là-bas, je travaillais dans les champs, là-bas,
manzana,
dans la cerise, dans les pommes.
Como ese
je travaillais dans les vergers.
flores rosas.
On était exploités de la même façon qu'ici.
Es lo mismo. Se le pagan bien barato.
On paye très mal.
A todas las personas que vamos a trabajar a Estados Unidos, que no tenemos papeles, que no tenemos ningún documento legal de aquel lado, es explotación segura.
A tous ceux qui passent et qui n'ont pas de papiers, qui sont illégaux aux États-Unis, ils sont exploités, ça c'est sûr, c'est toujours comme ça.
Mm-hmm. Faut pas croire que c'est si facile d'entendre ces mots-là. Des gens qui résistent dans cette situation, le long de la frontière, qui travaillent dans les maquilas, il y en a assez peu qui osent parler comme ça. On le verra à Tijuana. C'est du courage, elle a du courage, cette femme. Elle a une boussole morale forte et puis une expérience forte. Et voilà ce qu'elle fait aujourd'hui.
Et maintenant, qu'est-ce que vous faites, Rafaela? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas retraitée quand même, vous êtes jeune.
Pues ahora, pues enseño a los obreros de la ley federal del trabajo.
Donc moi aujourd'hui, j'enseigne la loi fédérale du travail aux travailleurs. Je leur apprends leurs droits du travail.
C'est subversif ça.
Les mettons demandes et.
Donc aussi on les aide des fois à porter plainte, à faire des démarches.
Nosotros somos una asociación civil.
Nous on est une association civile.
Nosotros trabajamos por denuncias. Tenemos asesoría legal con un abogado y él mete las demandas de lo que ahí sacamos, pues lo vamos invirtiendo en las.
Entonces, nosotros portamos plaintes y cuando on gagne de l'argent sur les plaintes qu'on dépose, eh bien, on utilise cet argent, on réinvestit l'argent sur les actions suivantes.
¿Depuis quand?
El año pasado, en febrero, empezamos. A este febrero es un año.
On a démarré, ça fait un an.
Alors, quelles affaires vous avez?
Ahorita tenemos demandas metidas de despidos injustificados.
Donc là, en ce moment, il y a des plaintes pour licenciement abusif sans raison.
C'est-à-dire dehors sans indemnité.
Tenemos las demandas metidas, no las hemos ganado.
Pour l'instant, on n'a gagné aucun de ces procès.
Nosotros tenemos 11 demandas metidas en un año.
Aunque
muchas personas demandan, pero luego desisten porque las amenazan por teléfono.
Il y a eu 11 plaintes posées cette année, mais en général, les gens ils se rétractent parce qu'ils ont des menaces au téléphone.
Mais vous avez des avocats qui vous soutiennent qui...
Uno, solamente uno.
On a un avocat qui nous aide.
Nosotros en la asociación somos 60.
Nous, dans l'association, on est 60.
Queremos que lo tapen, o sea, que lo entuben para que no salgan todos los olores, porque como está así, todo en la mañana huele más feo todavía.
Ça, c'est un égout à ciel ouvert et ça sent encore plus mauvais le matin. Et on a bataillé avec la mairie pour qu'il le recouvre, pour qu'il le ferme, et on n'a pas obtenu gain de cause.
C'est un cloaque, hein. Franchement.
Antes, ahora ya es menos, pero antes había muchos niños enfermos, se les salían como ruedas así, con granos, se les caía el pelo.
Merci à tous, merci à. À Raphaël, merci à Elisabeth Garcia, merci à Mike. Seifer de Projecto Digna et à Brownsville, et on vous donnera les coordonnées de cette ONG, de cette association. Vous avez peut-être envie de prendre contact avec eux et éventuellement de les aider. Vous trouverez les références de leur site sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. C'était un reportage avec Guy Vanctil et Antoine Ciao. À la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Yann Bouillot. C'est Yann Chouquet et Raphaël Moutéal qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Humbert qui attend, comme chaque jour, sagement, vos messages auprès du répondeur de la base J'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37.